Nous sommes avec Anne, tu es la coordinatrice au Crossroads Festival, notamment pour les rencontres pro de ce festival qui fête cette année sa 10e édition. Cette année, il y a une thématique qui ressort, le bien-être au travail, la santé mentale. Comment on organise une rencontre professionnelle donc sur ces 3 jours et notamment sur ce thème majeur?
On a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir beaucoup d'acteurs et d'actrices qui travaillent sur ce sujet-là depuis longtemps, notamment la PSART, qui est un grand partenaire des rencontres professionnelles de Crossroads depuis la première édition de Crossroads. Et on a tous les ans des échanges sur qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler sur la question de la santé, le fait de prendre soin des gens, notamment des professionnels, des musiciens, des musiciennes, évidemment. Et l'année dernière, on a organisé une rencontre hyper intéressante avec la PSART sur l'artiste.
La PSART, c'est quoi?
C'est donc l'association des professionnels de santé spécialisée en artistique et qui ont tous une approche, une bonne connaissance en tout cas des métiers, des spécificités des métiers liés aux musiques actuelles. Et donc on va avoir des kinés, des posturologues, des coachs spécialisés, des nutritionnistes spécialisés dans ce type d'alimentation, etc. Parce qu'évidemment, comme pour les sportifs, il y a des questions tout à fait spécifiques avec des rythmes décalés, avec des artistes qui sont en situation de faire du sprint et du marathon. Il faut s'entraîner constamment, jouer de son instrument constamment, tout en ayant des phases d'accélération comme le festival Crossroads où il faut se préparer parce que c'est une échéance professionnelle. Et l'année dernière, on avait fait une table ronde très intéressante sur l'artiste musicien et l'artiste musicienne. Sont-ils des sportifs et sportifs de haut niveau comme les autres? En faisant justement un parallèle avec les sportifs et les sportifs de haut niveau. Et la très grande différence qu'il y a entre les musiciens, musiciennes et les sportifs de haut niveau, c'est que les sportifs de haut niveau ont des équipes qui les entourent, ils sont très entourés, nutritionnistes, coachs, kinés spécialisés, etc., là où les artistes sont très isolés. Et notamment dans cette rencontre est arrivée aussi la question de la santé mentale, de comment on travaille avec cet isolement, comment on travaille avec la pression liée aux réseaux sociaux. Donc on s'est dit avec Stéphane Cognam, qui est vraiment notre interlocuteur à la PSART, bah ok, allons-y et consacrons vraiment une thématique, un parcours destiné aux professionnels et aux musiciens et musiciennes, de manière à ce que les gens viennent trouver des ressources. Parce que le principe des rencontres professionnelles de Crossroads, c'est qu'on est orienté solution. L'idée, ce n'est pas de soulever les problèmes, mais de dire, je sors de Crossroads, j'ai un panel d'outils à ma disposition, je sais vers qui me tourner, je sais où trouver des réponses à mes questions. Donc, ça a été vraiment ça qui nous a guidés. Donc, on a commencé par 2 ateliers, avec dans l'idée justement de travailler comment travailler la préparation physique et la préparation mentale dans le sport. Donc, hier matin, il y avait 2 ateliers. Un avec Bénédicte Lelay sur le corps en scène, c'est comment son corps peut être, entre guillemets, préparé, travailler régulièrement pour aller sur scène, qui est un exercice quand même tout à fait spécifique. Et puis, il y avait un atelier avec Stéphane Cognam, donc sur la préparation mentale et effectivement la gestion du stress, du trac, de la pression, etc. Donc, les 2 ateliers ont extrêmement bien fonctionné, on a eu des hyper bons retours, évidemment fréquentés quasi exclusivement par des musiciens, musiciennes, mais pas que, parce que sur la préparation mentale, Stéphane aussi avait quelques professionnels. Et l'après-midi, on avait cette rencontre. On a eu là beaucoup de chance parce que la santé mentale est une grande cause nationale 2025, mais c'est quand même un sujet qui est travaillé dans les musiques actuelles depuis au moins la période du Covid, qui a été une période qui a beaucoup bouleversé nos habitudes de travail, avec l'apparition du télétravail, avec effectivement le travail à distance, les équipes qui sont un peu séparées, les artistes qui se retrouvent aussi avec une hyper accélération de la présence des réseaux sociaux dans leur vie et du poids que ça a, etc. Donc on a souhaité inviter 5 intervenants-intervenantes avec chacun des points de vue et des ressources très différentes. Donc on a commencé par le collectif Cura, qui est un collectif de professionnels de la musique qui ont mené 3 études en 2019, en 2022 et en 2025 sur la question de la santé mentale dans la musique actuelle. Et puis la dernière, toute récente, qui est sortie le 16 octobre sur la question de santé mentale et réseaux sociaux, puisqu'on a vraiment une problématique tout à fait spécifique. Donc là, qui était représentée par Sandrine Bilissi, qui est du coup une des cofondatrices du collectif, qui est également formatrice en premier secours en santé mentale. Donc, qui nous a présenté du coup les études réalisées par Cura, qui nous ont permis de planter un peu le paysage en disant il y a un gros sujet. Il y a plus d'un quart des professionnels qui sont en souffrance, plus de la moitié d'entre eux qui souffrent d'anxiété. Enfin, il y a vraiment un gros sujet quand même. Plus tous celles et tous ceux qui ne le disent pas, puisqu'il y a aussi toujours la peur d'être disqualifié en disant voilà, j'ai un problème de santé mentale et c'est difficile d'en parler avec son entourage. Et puis Sandrine, elle nous a aussi évidemment présenté cette formation de premier secours en santé mentale qui permet, en tout cas quand on est professionnel, d'avoir en tout cas les bonnes bases pour identifier les signaux d'alerte qui vont faire qu'on va pouvoir repérer des collègues, des musiciens qu'on accompagne, des musiciennes qu'on accompagne et leur donner une première orientation pour que ça puisse être pris en charge.
Est-ce qu'on peut peut-être développer ce point de premier secours en santé mentale dans cette formation-là? Qu'est-ce qu'on détecte?
Bah, on va justement pouvoir repérer des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des signaux pas forcément très apparents, mais qui vont permettre d'identifier, par exemple, les troubles anxieux, des signes possiblement de dépression, des signes de troubles psychotiques aussi. C'est des maladies qui souffrent aussi de très grands préjugés, donc qui génèrent le fait que les personnes n'en parlent pas, ou ne souhaitent pas en parler, ou en tout cas sont parfois très tardivement diagnostiqués. Donc ça permet de repérer aussi certains troubles neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre autistique, etc. Et de pouvoir en tout cas avoir la réponse la plus adaptée, la plus bienveillante et adroite possible. Et du coup, c'est une formation qui dure 14 heures sur 2 jours. Et comme le PSC1 qui permet effectivement d'outiller les professionnels en disant voilà, là je repère qu'il y a un sujet, j'accompagne de manière bienveillante la personne si elle le désire évidemment parce que le consentement est fondamental. Et puis je suis capable de lui indiquer les premières portes où elle va trouver de l'aide adaptée à sa situation. Donc ça voilà, elle mène aussi des ateliers de fresques de santé mentale, pareil, qui permettent aux professionnels de repérer les premiers signaux de mal-être, de personnes en difficulté et surtout d'être capable de répondre parce que parfois on est tout à fait capable de repérer qu'il y a des difficultés. Mais on n'est pas toujours très à l'aise sur est-ce que je suis légitime pour intervenir, pour parler, pour échanger avec cette personne, est-ce que je vais l'écouter comme il faut. Donc ça, c'est vraiment des espaces qui nous permettent de construire aussi notre point de vue et notre capacité professionnelle à cet endroit-là.
Alors au cours de ces 10 dernières éditions, il y a eu des avancées majeures. On a eu donc des thèmes portés sur l'environnement, l'égalité homme-femme dans le milieu. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ces points-là? Est-ce que après, on va dire ces quelques années, tous ces points-là ont été améliorés dans ce secteur du spectacle?
Oui, alors très clairement, sur les 2 points que tu soulèves, évidemment. Moi, j'ai démarré au Transmusical à Rennes en 2008, où on était un des rares festivals à parler développement durable et solidaire. Les trans sont à l'origine de la création d'un collectif qui s'appelle le Collectif des Festivals engagés dans une charte de développement durable et solidaire. 17 ans plus tard, on n'a plus besoin de convaincre les gens que c'est un sujet. Nombre de festivals, de salles, de labels, de tourneurs, de producteurs et de productrices de spectacles savent qu'il y a un sujet, savent qu'on a une responsabilité collective à travailler. On est accompagné. Il y a plein de formations qui existent partout en France sur comment, justement, on adapte les métiers du spectacle à ces nouveaux critères environnementaux, à une forme de décroissance dans, en tout cas, la consommation des ressources qui sont limitées. Voilà, exactement. Mais c'est extrêmement varié, en vérité, parce que ça part de la mobilité des publics, qui est le premier gros sujet, la mobilité des artistes, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les circuits courts. Nous, à Crossroads, par exemple, on dit toujours « small is beautiful », c'est-à-dire petit festival, et effectivement, on peut utiliser, par exemple, la condition publique, nous, on n'achète quasiment rien pour faire le festival, c'est du prêt, de la location, de la mutualisation de matériel, on emprunte les gobelets du Grand Mix, de la cave aux poètes, notre rubrique achat dans le budget, elle est minuscule. Donc voilà, on travaille sur la cuisine, par exemple, le déjeuner pro ou le catering, on est sur la cuisine locale de saison avec des produits frais qui sont achetés en circuit court. On fait un tri des déchets, évidemment. Enfin, j'ai envie de vous dire là que, aux auditeurs et aux auditrices que ça, pour le coup, ça y est, nous y sommes. Et c'est constamment dans les journées, dans notre quotidien, on réfléchit à comment on améliore ce qu'on peut chaque année. Sur l'égalité femmes-hommes, alors je vais faire une distinction parce que le sujet qu'on a vraiment extrêmement bien travaillé ces 5 dernières années, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement moral. Alors je ne vous dis pas que c'est fini, évidemment que non, mais par contre on s'est quand même tous formés. Moi je fais j'ai fait une formation et je fais un recyclage tous les ans. Je peux même aujourd'hui accompagner des personnes beaucoup plus intelligemment, je pense, que ce que j'aurais pu faire il y a 10 ans. On peut se tourner vers la cellule d'écoute d'audience. On a des recours avec des psychologues formés, spécialisés. On a des avocats chez Audience aussi qui peuvent aider les personnes victimes ou témoins de faits problématiques. Donc on a aujourd'hui une organisation de l'écosystème qui permet que quand il y a une galère ou une difficulté, on n'est pas seul face à cette galère, à cette difficulté. Donc c'est vraiment un progrès, parce qu'il y a encore 10 ans, quand on avait un problème de sexisme dans les équipes, d'abord c'était difficile d'en parler, c'était vraiment un tabou. Et bah, moi j'étais en direction il y a 14 ans, quand j'ai pris mon dernier poste de direction avant d'arriver à Crossroads. Bon, bah, c'était même dans le conflit. C'est-à-dire, voilà la fameuse phrase, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues. J'adorais mes collègues, et je les aime toujours, mes collègues de l'époque, mais j'ai toujours leur faire un rappel à l'ordre, parce qu'ils faisaient des blagues homophobes, des blagues sur grossophobes, des blagues validistes et tout ça, et je passais pour l'emmerdeuse en vrai. Et aujourd'hui, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus tellement à faire ce genre de rappel à la loi, entre guillemets, parce que l'expression du racisme, du sexisme, de la grossophobie, du validisme, ben, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits, en fait. Hein. On ne peut pas discriminer quelqu'un ni sur son genre, ni sur sa couleur de peau, ni sur ses capacités physiques, etc. Donc là, aujourd'hui, on a aussi en plus un cadre légal qui s'est clarifié, qui s'est simplifié, dans lequel on sait agir et on peut agir. Donc oui, il y a eu un gros progrès. Et ce n'était pas du luxe. Maintenant, sur l'égalité femmes-hommes, en fait, la lutte contre les VHSS, enfin, contre les violences sexistes et sexuelles, a pris énormément de place. Et c'était nécessaire. Mais du coup, la question de l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire le rattrapage des écarts salariaux, le fait que, par exemple, les femmes accèdent à des postes à responsabilité et que ce soit des postes à responsabilité qui soient tenables, qu'elles n'arrivent pas en pompier de difficultés, etc. Ce qui a été mon cas, moi, par exemple. Hein, on nous confie des postes parce que les hommes n'en veulent pas, parce qu'ils sont trop compliqués. Hein, voilà, ça, c'est la réalité. Voilà, et puis on est payé moins, tout à fait. Bah, voilà, donc, et ça, malgré tout, c'est une responsabilité collective aussi à faire que les choses bougent. Donc maintenant, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une loi qui vient de passer là, sur la transparence salariale, qui va beaucoup changer les choses, parce que dans une même entreprise, tout le monde saura combien gagne chacun et chacune, et ça permettra, je pense, des rééquilibrages de fait, quoi. Voilà. Donc, à compétences égales, les personnes aient les mêmes niveaux de rémunération. Ça me paraît fondamental.
Dans les conférences, on a pu entendre que le monde du spectacle, il y a plus de 1500 métiers différents. C'est aussi un milieu relativement, même très précaire, où il y a aussi une intermittence du spectacle, où 20% de l'effectif est renouvelé. Donc c'est vraiment aussi un secteur mouvant. Comment on réfléchit aussi sur la suite, la nouvelle génération, comment elle se comporte par rapport à peut-être ta génération, ma génération?
On a un sujet, mais qui nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée sur mon poste de direction en 2011, je savais déjà que j'allais transmettre et que j'allais former des personnes pour devenir directeur ou directrice à ma place, ce qui était le cas, puisque j'ai formé 3 personnes qui sont devenues effectivement directeurs et directrices depuis. Et moi, j'ai dit, bah, je passe mon tour. Enfin, maintenant, je veux retourner sur des postes de coordination plutôt, ce que les Anglais appellent downsizer, c'est-à-dire réduire un peu par rapport à ce que tu faisais avant, mais parce qu'à 50 ans, je n'ai pas la même énergie que celle que j'avais à 35, et c'est bien normal. Et qu'en plus, j'ai formé des gens qui sont normalement, entre guillemets, meilleurs que moi aujourd'hui parce qu'ils ont un meilleur cadre légal, ils ont aussi... voilà. Mais néanmoins, on leur laisse quand même un secteur qui est toujours dans une précarité économique où c'est difficile d'augmenter les équipes, c'est difficile d'augmenter les salaires minimums des salariés, intermittents et permanents. Et que forcément, ben, parfois, c'est une vraie difficulté de se dire « Ok, en France, on a l'intermittence, qui est un système de protection sociale fondamental pour que nos métiers du spectacle existent, mais néanmoins qui reste un modèle fragile, qui est régulièrement remis en cause par notamment les organisations patronales, mais aussi par l'État français. » Mais je pense quand même qu'on reste un secteur malgré tout très solidaire et en capacité 500 000, entre 500 000 et 600 000 salariés permanents intermittents, plus tous les indés qui gravitent... évidemment, en même temps que nous, voilà, tous les prestataires, on a aussi une économie tout à fait réelle. Et du coup, bah, de nouveau, question de responsabilité collective et comment on forme effectivement cette jeune génération qui arrive. Alors, ce qui est hyper intéressant à Crossroads, ça, c'est vraiment quelque chose dont on est fier, qui est beaucoup porté par mon collègue Kenneth Kieger. On accueille des étudiants et étudiantes de première année, de cinquième année, d'enseignement supérieur, de licence, c'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux. Et voilà, dans l'équipe, tu vois, à Crossroads, aujourd'hui, tu as des étudiants et étudiantes de Kenneth qui sont devenus des professionnels et qui travaillent dans l'équipe pour certains et certaines d'entre elles, comme Colline, par exemple, du Quénois, ou Cyril Menossi, qui sont devenus salariés de l'équipe. Et c'est aussi comment on leur offre des conditions de travail qui sont suffisamment bonnes pour qu'ils aient envie de revenir travailler à Crossroads, parce qu'on a une équipe vraiment géniale. Et du coup, ça, c'est pour nous fondamental. Mais c'est aussi, bah, évidemment, nous, essayer de trouver toujours les moyens, les ressources pour le faire. Et puis, continuer à former cette jeune génération, à lui donner, par exemple, voilà, chez nous, il n'y a pas des journées ultra longues, mal payées, etc. On essaie d'avoir une rémunération décente. Les salaires sont transparents. Les niveaux horaires sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes au sein de Crossroads. On traite les personnes avec les mêmes niveaux de rémunération. Mais comment aussi on leur permet d'évoluer? Parce que ça, c'est aussi un des gros sujets, de dire je ne vais pas faire le même travail peut-être 20 ans. et de se dire bah, comment je peux rebondir, comment je peux évoluer, comment je peux aussi peut-être me former. Ça, c'est un truc fondamental qu'on bosse notamment avec France Travail et avec l'AFDAS, qui sont aussi des partenaires importants des rencontres pro, de dire bah, comment je vais, ma carrière va évoluer. Et ça, tu vois, par rapport à ma génération, c'est quand même de belles opportunités parce qu'on a les moyens, entre guillemets, d'envoyer les gens se former, de progresser, d'évoluer et de pouvoir avoir des carrières qui changent, en fait, et qui évoluent dans le bon sens, quoi. Mais c'est un système, évidemment, avec des valeurs sociales fortes qu'il faut préserver.
Bah, merci beaucoup, Anne. Donc, tu es la coordinatrice des rencontres professionnelles au Crossroads Festival, 10e édition. Merci beaucoup.
Merci à toi, Honorine.